Une jeunesse sans eau, c'est de ne pas boire, de ne pas préparer et de ne pas se laver. Donc, pour beaucoup de femmes et de jeunes filles, c'est le mardi, c'est le jeudi et c'est tous les jours d'ailleurs. Donc, une jeunesse sans eau consiste à faire passer au second plan ses projets, ses ambitions, son travail. Et c'est ça qui se passe pour des millions de femmes et de jeunes filles un peu partout à travers le monde.
C'était Danielle Kamtier, cofondatrice du Parlement africain de la jeunesse pour l'eau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast People First, le podcast du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis Rama George et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à un sujet qui nous concerne tous, l'eau. Elle fait pousser nos récoltes, alimente nos villes, conditionne notre santé, mais cette ressource rare est parfois mal utilisée, mal gérée ou mal partagée, alors que près de 1,7 milliard d'emplois dans le monde en dépendent. C'est pour répondre à ces enjeux que le groupe de la Banque mondiale a lancé l'initiative Water Forward, ou Place à l'eau en français, lors des dernières réunions de printemps. Fort d'un plan d'action avec ses partenaires de développement pour sécuriser l'accès à l'eau pour 1 milliard de personnes d'ici 2030, il apporte à cette initiative une expertise éprouvée, une portée mondiale et une solide capacité opérationnelle. Dans cette lignée, l'institution a publié un nouveau rapport Nourrir et prospérer, des solutions hydriques pour nourrir 10 milliards de personnes sur une planète vivable, qui tire la sonnette d'alarme. Sans une nouvelle gestion de l'eau, nous ne pourrons relever le défi alimentaire de 10 milliards d'humains d'ici 2050. Et bonne nouvelle, l'Afrique a un rôle clé à jouer dans cette transformation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Amal Talbi, experte dans l'eau, et une des autrices de ce rapport, ainsi que Fatouma Touré Ibrahima, directrice sectorielle pour l'eau en Afrique de l'Ouest et du Centre. Explorons ensemble comment une meilleure gestion de l'eau peut, entre autres, créer des millions d'emplois, augmenter les revenus et la productivité des agriculteurs et ouvrir des opportunités pour les jeunes et les femmes. Bonjour Amal.
Bonjour.
Amal, nous allons commencer par parler du nouveau rapport sur l'eau qui met en avant la nécessité de rééquilibrer l'usage de l'eau dans le système alimentaire mondial. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où certains territoires disposent d'eau mais manquent d'infrastructures pour l'utiliser efficacement?
Ce qu'on a essayé de montrer dans ce rapport, c'est qu'au niveau mondial, le problème n'est pas un manque d'eau, c'est un problème de distribution et de son utilisation. Dans certaines régions, on a une surexploitation de l'eau qui, pour ces pays-là, sont un risque aussi bien sur la partie agricole que sur la partie environnementale. Pour d'autres régions, en revanche, et beaucoup d'entre elles sont en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, l'eau est disponible, n'est pas utilisée. Souvent par un manque d'infrastructures, ou un manque d'institutions, ou un manque de financement, ou un manque de système. Si on fait juste une conversion de l'agriculture pluviale, une irrigation d'appoint, ça permet à ces pays qui ont de l'eau qui n'est pas utilisée de créer des emplois, d'augmenter la production agricole et de protéger aussi l'environnement. Si vous avez plus de production agricole, vous n'avez pas besoin d'aller sur de nouvelles terres. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'assurer qu'on a une maintenance, on a le renouvellement des actifs, que le secteur privé est impliqué et établir des mécanismes de financement durables. Donc, dans l'exemple de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, ou bien l'Office du Niger au Mali, ce qu'on voit, c'est que des institutions qui reposent sur des principes de gouvernance solide et une culture de performance ont des productions agricoles performantes. En fait, il faut garder à l'esprit que l'agriculteur est un entrepreneur et qu'il paye pour le service qu'il reçoit.
Le rapport évoque aussi la création potentielle de 245 millions d'emplois à long terme, dont une grande partie en Afrique subsaharienne. Quelles opportunités concrètes ces investissements pourraient-ils offrir aux jeunes et aux femmes dans les filières agricoles et hydriques?
Déjà, je voudrais commencer par ce nombre, 245 millions. C'est le nombre pour une seule action. L'action de convertir l'agriculture pluviale, là où il y a de l'eau, vers une irrigation d'appoint dans les limites de l'eau. Donc une seule action nous donne au moins 245 millions d'emplois dans le monde. Cette projection s'appuie sur un modèle économique. Chaque hectare nouveau en Afrique permet environ une création de 4 emplois directs ou indirects. Et ce qui est particulièrement important, c'est que sur ces 245 millions mondialement, 90% de ces emplois sont dans l'Afrique subsaharienne. Donc c'est une transformation économique majeure qui coïncide précisément avec la montée en puissance d'une jeunesse africaine. Les femmes et les jeunes pourront bénéficier de ces opportunités si on s'attaque aux barrières qui peuvent les exclure. Et donc cela passe par exemple par la sécurisation de l'accès à la terre, ou la sécurisation et à l'utilisation de la terre, ou bien par la représentation des femmes et des jeunes dans les institutions d'agriculture ou de gestion de l'eau. Et si on arrive à vraiment surmonter tous ces obstacles, utiliser les innovations, on peut faire en sorte que les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde, les petits agriculteurs, puissent bénéficier de cette meilleure gestion agricole de l'eau et de se faire en sorte qu'on ait vraiment cette transformation nécessaire.
Merci Amal. En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'eau n'est pas seulement une ressource. C'est ce qui permet à une jeune écolière de poursuivre ses études, à une famille de se nourrir et à une compagnie de sécuriser ses revenus. Quand l'accès à l'eau change, c'est toute une vie qui change. En Guinée, plus de 30 000 personnes ont bénéficié des services améliorés d'eau potable dans le Grand Conakry grâce aux investissements majeurs du projet Urbain Eau de Guinée que nous avons soutenu. Aissatou Cissé, une jeune lycéenne, nous a raconté son quotidien familial avant l'arrivée du robinet.
Ma maman, elle nous réveille à chaque fois à 4 heures pour aller chercher de l'eau. J'étais tout le temps en retard et puis des fois quand je rentre en classe, les professeurs me grondaient. Pour mes résultats scolaires, j'ai échoué le bac 2 fois. Je n'arrivais pas à trop réviser en fait.
Depuis que l'eau potable est désormais disponible pour les habitants de son quartier, tout a changé pour elle et sa famille.
Le fait d'avoir le robinet en famille, moi personnellement, ça me soulage. Parce que je ne me réveille plus pour aller puiser de l'eau. Et puis, je me concentre sur mes études pour avoir des bons résultats scolaires. J'avais échoué le bac 2 ans après. Maintenant, l'année-là, quand même, j'ai eu le bac. Je fais l'université. Mes examens ont été meilleurs. Le Covid, quand même, si ce n'est pas les travaux ménagers, là, je ne puise plus d'eau comme avant.
Bonjour Fatouma. Fatouma, il y a un sentiment d'urgence. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes sont confrontées à une insécurité hydrique. L'eau semble à la fois une opportunité et un défi. Est-ce principalement un problème d'infrastructure, de gouvernance ou de financement?
Il s'agit de tous ces problèmes en même temps. Il s'agit d'un problème d'infrastructure, d'un problème de financement et de gouvernance. Mais on doit également parler du changement climatique, on doit parler de l'urbanisation, de la croissance démographique. Un nombre de défis qui, ensemble, créent une situation d'urgence. Si nous prenons, par exemple, l'exemple de l'Afrique subsaharienne, on parle de 400 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau de base. On parle de 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à des services d'assainissement importants. Donc, je pense que cette situation d'urgence, on doit continuer de la mentionner, mais on doit aussi voir les opportunités.
L'eau comme opportunité?
L'eau est une opportunité très puissante, je dirais. Quand nous prenons l'exemple de l'eau et de la problématique de l'emploi, c'est clair que sans eau, il est très difficile de soutenir l'économie d'un pays.
Peux-tu m'en dire plus sur les opportunités de transformer la gestion de l'eau en agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre?
Le groupe de la Banque mondiale a développé sa nouvelle stratégie qui a 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'eau pour les populations. Le deuxième pilier, c'est l'eau pour l'alimentation. Et le troisième pilier, c'est l'eau pour l'équilibre des écosystèmes. Il y a vraiment une centralité au niveau de l'eau pour l'alimentation et la façon dont on économise aussi l'eau pour cette irrigation. 60 à 70% de l'eau va dans le secteur agricole, donc la façon dont cette eau est gérée est extrêmement importante. Nous y voyons vraiment une grosse opportunité. 6% seulement des terres cultivables aujourd'hui en Afrique sont irriguées. Nous avons une opportunité d'accompagner les pays à transformer ce sous-secteur de l'eau. Je pense qu'un projet comme le PARIS, le projet régional pour l'irrigation au Sahel, est un très bon exemple d'initiative qu'on peut prendre pour adresser ces questions au niveau régional.
L'engagement des différentes parties prenantes, gouvernement, partenaires techniques et financiers, secteur privé, était tangible lors des dernières assemblées. Au niveau de la région, comment transformer cet engagement à des investissements concrets et à des résultats tangibles?
Effectivement, les assemblées nous ont permis de regrouper un certain nombre de parties prenantes, les gouvernements en tête de file, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé. Ça prend un village pour amener de l'eau aux populations. Donc nous avons vraiment apprécié le fait que tout le monde était autour de la table pour appuyer les pays. Ces pays ont défini leur compact. Ces compacts présentent leurs priorités au niveau des réformes, des investissements, mais aussi une feuille de route pour un peu aider les différents bailleurs, les différents partenaires à les accompagner dans le processus. Nous avons pu l'avoir lors de l'initiative Water Forward. Nous avons vraiment beaucoup d'espoir pour voir les choses se transformer sur le continent. Merci.
Merci Fatouma. Retournons au siège du groupe de la Banque mondiale à Washington, où Daniel Kamtié avait pris la parole pendant l'événement Place à l'eau pour l'emploi et la prospérité lors de nos réunions de printemps. Ayant vécu au Cameroun puis au Canada, elle connaît aujourd'hui deux réalités bien distinctes.
C'est très intéressant parce que j'ai grandi entre deux réalités. Donc au Cameroun, on pense à l'eau toute la journée, tu vois, c'est quelque chose qui est indispensable. Au Canada, on ouvre son robinet et bon, personne n'y pense. Quand j'ai cofondé le Parlement africain de la jeunesse pour l'eau, nous n'avions pas de grand budget. Nous avions juste une idée et une vision. Et aussi quelque chose de très important, c'est qu'il faut savoir, c'est un domaine très vaste, ok? Il y a plusieurs opportunités de travail, il y a plusieurs opportunités de cheminement professionnel.
Ce qu'il faut retenir de cet échange, c'est que l'eau dépasse le simple statut de ressource. Elle est un droit humain fondamental. Mieux la gérer, c'est produire plus, créer de l'emploi et préparer un avenir plus durable, surtout ici en Afrique de l'Ouest et du Centre, où les besoins comme les opportunités sont immenses. Et vous, que faites-vous pour ne pas gaspiller cette eau si précieuse? Ainsi se termine cet épisode. Merci à Amal Talbi, à Fatouma Touré Ibrahima et à Daniel Kamtié pour leur regard concret sur la thématique de l'eau et pour ces exemples d'initiatives et des projets financés par le groupe de la Banque mondiale en Afrique subsaharienne. Merci à vous aussi, chères auditrices et auditeurs, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de nous avoir suivis et espère que vous avez apprécié ces témoignages. À très vite et surtout, n'oublions pas, chaque goutte d'eau compte.